sont déjà assez élucidées. C'est-à-dire qu'il y a deux vertus préalables qui sont très liées et qui sont indispensables à l'atteinte, disons, de la vérité de la Torah. C'est l'humilité et la simplicité. Vous vous rappelez de cela, okay? Alors, je vous propose d'essayer ce matin d'achever complètement le chapitre, de telle sorte que nous ayons le temps demain et après-demain de prendre un deuxième chapitre que je vous avais annoncé au début. Et alors, nous sommes arrivés, vous allez me rappeler, à peu près vers la fin de la première colonne de la page 11, Yudalot. Okay? Je vous donne voilà. Vous avez ici, à peu près, après l'analyse de la capacité de la simplicité, dans le sens que nous avons étudié, le Maharal va reprendre la comparaison avec les trois boissons, breuvages, qu'il avait indiqué en citant la Gemara. Pourquoi les versets comparent la Torah à l'eau, au lait et au vin? Vous vous rappelez de cela? Alors nous allons prendre là. Vechen, mashlosha mashkin nifsalin be isechadat, et ainsi de même, ces trois breuvages nifsalin deviennent psulim, s'altèrent. Be isechadat, ça veut dire par inadvertance, sans qu'on s'en rende compte. C'est une expression, je crois que je vais les signaler, qui se trouve assez souvent dans le langage talmudique, lorsqu'on parle d'une réalité ou un événement qui fait irruption. Ce n'est pas la notion de hasard. C'est-à-dire, c'est inattendu. Je me souviens bien, il y a une référence importante qui dit « Trois choses arrivent de cette manière. » Une trouvaille, quelle que soit la trouvaille, « metzia », le scorpion, la piqûre du scorpion, et le Messie. Et le Messie. Alors, il y a des gens pour qui le Messie, c'est une trouvaille. Et d'autres... C'est-à-dire, il y a donc un caractère fragile, vulnérable, de ces valeurs que représentent, par comparaison, les liqueurs dont... le verset auquel le verset compare la Torah. C'est la définition d'ailleurs traditionnelle de la valeur. La valeur est vulnérable, elle est exposée. À plus forte raison, la valeur de vérité, qui elle est exposée à tous les dangers d'être violée. Et, comme je disais donc, à plus forte raison, la valeur de vérité, qui vous l'apprendrez avec le texte qu'on étudiera ce soir avec le docteur Prince, qui est le sceau, S-C-E-A-U, de toutes les valeurs à la fois. Et je crois que nous avons étudié cela une fois, à propos d'un enseignement talmudique important. Tout est entre les mains de l'homme, sauf la crainte de Dieu. Akol bide shamayim, chut mirat shamayim. Je crois que pour bien comprendre le contenu de cet enseignement, il suffit de se référer à cette analyse de la notion de valeur. La valeur me contraint absolument en toute chose. Je ne peux pas faire qu'elle ne soit pas ce qu'elle est. Mais je suis absolument libre de ne pas la reconnaître. Vous voyez à quel point d'ailleurs ça se relie à l'analyse de la notion de vérité par rapport à ces deux contraires, le mensonge et l'erreur. Je ne peux pas faire qu'une valeur ne soit pas ce qu'elle est. Je sais que je la reconnais comme telle, mais je peux ne pas la reconnaître, comme je viens de dire. C'est-à-dire, je peux mentir par rapport à la vérité, mais je ne peux pas faire que la vérité ne soit pas ce qu'elle est. Alors, le problème de l'erreur est un problème important, annexe et relié. Les philosophes l'ont beaucoup étudié, les talmudistes aussi. Et simplement, ce que je pourrais dire, c'est que... Non, je ne voudrais pas entrer dans cette parenthèse, mais c'est surtout l'attitude du mensonge qui doit être caractérisée ici par rapport, encore une fois, à cette transcendance de la valeur et qui cependant nous laisse libres. c'est la grande différence entre la loi morale et la loi de nature. La loi de nature me détermine, elle s'impose à moi et me prive de liberté, alors que la loi morale m'oblige, elle me contraint à la reconnaître, mais elle me laisse libre. La notion de différence entre la notion d'obligation et la notion de contrainte du déterminisme. Et là, le Maharal revient sur un enseignement très important. La Torah n'est pas de ce monde. Et quand je dis n'est pas de ce monde, il s'agit du monde où l'homme est situé, comme il l'a dit souvent, en tant que Baal Gouf, doué d'un corps et par conséquent inséré dans le monde très complexe des nécessités biologiques, psychiques, intellectuelles, spirituelles, mais du monde des motivations et des tendances. Et je vous rappelle que il faut donc être déjà avoir dépassé ces contraintes des passions, pour récapituler tout cela par un mot unique, pour pouvoir arriver à cette simplicité de la connaissance qui permet l'accès à une vérité authentique. Et c'est pourquoi le Maharal explique que la vertu morale indispensable pour cela, c'est l'humilité qui, dans l'ordre de la modestie, qui, dans l'ordre des vertus, représente cette simplicité. Et il va encore continuer jusqu'à la fin du paragraphe l'analyse du lien qu'il y a entre ces deux situations, la situation de modestie, l'iot shafel, et d'autre part, la simplicité qui permet l'accès à la vérité vraie, si j'ose dire. Donc je reprends cette phrase concernant la comparaison avec les trois boissons que la référence talmudique a indiquée. Je reprends depuis le début du paragraphe que nous avons commencé à lire pour tout ce qui vient d'arriver. Vechem, mashlosha mashkin nifsalin be'eset adat, de même que ces trois boissons s'altèrent. Comment traduire ça en français? Eset adat, après toutes les explications. Oui, soudainement. Ratzalomar, amashke hu davar dak meod. Il veut dire que cette boisson est une chose, une réalité, disons, fine, dak. Et l'idée qu'il y a là, c'est l'idée de vulnérabilité. Umi peneze kal liot nifsal. Et c'est pourquoi il est facile. Enfin, il est calme. J'aimerais mieux dire pas difficile qu'elles s'altèrent. Vesrichin shmira. Elles ont besoin d'être préservées. Elles ont besoin d'être gardées, d'être veillées sur, surveillées. Elles ont besoin d'être préservées. Vous voyez, vous retrouvez ici l'importance de ce terme. Lorsque les versets demandent « Shmirat HaMitzvot ». On traduit en français « observer les commandements ».« Shamor », »,« observer ». Okay. Vous voyez qu'il y a une nuance en hébreu qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus importante. Il ne faut pas croire que l'observation des mitzvot soit quelque chose de naturel à la, j'allais dire à la volonté de l'homme, mais je veux dire à la volonté de l'homme, considéré comme son penchant naturel à vivre. Ce n'est pas co-naturel à ce que serait une vie de nature. Et par conséquent, le risque, c'est de croire qu'on va finir par en prendre l'habitude et que cette habitude sera un acquis qui transformera l'identité et que cela deviendra facile. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point de la question. Les mitzvot doivent être protégés. Et c'est pourquoi l'élaboration du Shulchan Aruch, de la pratique des mitzvot de la Torah, a ceci aussi centralement pour objet. C'est-à-dire la forme dans laquelle la mitzvah doit être accomplie est élaborée de telle sorte que cela protège cette mitzvah. En particulier, c'est la notion de, je vais mettre ça entre guillemets, c'est encore un sujet pour lui-même, « Va'asu siyag la Torah » fait une barrière à la loi, une barrière de protection. très souvent, si la Torah a demandé une limite au temps d'accomplissement de la mitzvah, alors la loi orale, c'est la Torah Shebirta, va demander, par exemple, cette mitzvah doit être faite jusqu'à minuit. Par exemple, le Kriyat Shema du soir. Donc, Midoraita, vous êtes déjà familier avec ce terme, et puis ça me permet de me brancher un peu sur les principes des exemples qui ont été cités hier soir. Midoraita, on a le droit de dire le Kriyat Shema du soir que jusqu'à minuit. Je me trompe. On a le droit de dire Kriyat Shema du soir jusqu'au matin. Mais la loi orale va donner, a priori, la limite de minuit. Et si la limite de minuit est passée, a posteriori, on a encore le temps de le dire. Je crois que nous avons parlé de cela une fois, il y a là un principe que je voudrais rappeler. L'attitude morale juive n'est pas une attitude facile. C'est-à-dire, a priori, c'est interdit. Mais si c'est arrivé, on arrange. Vous avez compris ce... Il y a eu des exemples hier soir. Patour à Balassour. Et je crois qu'il faut une sincérité très fine d'honnêteté morale pour se situer dans ce type d'attitude morale. Sinon, on risque de basculer dans deux défauts graves parmi d'autres, d'ailleurs, ou ce que j'appelle souvent une scrupulite exagérée, ou une hypocrisie tartuffe. Bon, vous avez compris. D'ailleurs, ça me permet de, puisque lorsque la mémoire est fatiguée, elle est fatiguée, de corriger une erreur dans l'analyse que je vous ai donnée hier matin, quand je vous ai expliqué l'enseignement sur le verset du Cantique des Cantiques, le contenu de la marchandise et les emballages, vous vous rappelez? J'ai dit cela au nom du Maharal, mais c'est le Malbim. Alors, corrigez dans vos cassettes. C'est pas le Maharal, c'était le Malbim. D'ailleurs, ça me gênait quand je disais le Maharal et j'arrivais pas à me rappeler pourquoi. Bien, je reviens au problème. Donc, voilà la notion de Shmirat HaMitzvot. Et je la prends comme exemple pour la notion que le Maharal emploie. Il y a des liqueurs, ça représente les valeurs, qui doivent être préservés, protégés. Et vous voyez qu'il nous serait donc trop difficile, à partir de maintenant, d'employer ce terme en français, d'observer les commandements, sans y mettre quand même la connotation hébraïque. Non seulement il faut les réaliser, les accomplir, mais il faut les accomplir de manière telle qu'elles soient protégées. Il y a une manière de vivre des valeurs qui ne passent pas les générations si elle est maladroite. C'est un peu l'idée que je veux dire. Vous savez que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils observent les commandements, et souvent ils les observent de loin. Bien. Vechach haTorah. Et de même la Torah, Shehi etzel haAdam le dakut haSechel. Et la Torah qui se trouve chez l'homme, les dakut asechel asher en lo shayachut el adam, asheru ba'al guf gashmi. Bon, maintenant il a élargi définitivement ce principe. Étant donné que l'homme est ba'al guf gashmi et possède un corps matériel, et pour toutes les raisons que nous avons déjà élucidées, cela fait obstacle à un lien connaturel avec la Torah. Et il reviendra sur ce principe, la Torah n'est pas connaturelle à notre monde inférieur, puisqu'elle est le Sechel HaPashut. Et or, l'homme n'a pas de lien naturel avec le Sechel HaPashut. Il y a un surhaussement de l'identité humaine qui est nécessaire pour arriver à ce niveau de la capacité de connaissance que le Maharal appelle le Sechel HaPashut, c'est-à-dire l'intellect abstrait de toute relation aux images qui ont des charges de motivation, finalement, charnelles, corporelles, matérielles, les intérêts. Cela n'est pas naturel à l'homme, il faut acquérir cela, et c'est un bien précieux, vulnérable, selon l'image employée, plus que l'image, la comparaison employée par la Gemara, comme le vin, le lait, l'eau, le vin, le lait, qui sont des réalités qui s'altèrent facilement, Et par conséquent, il faut, je m'y rends, il faut une préservation. Vous savez que nous avons une phrase dans la prière que nous disons chaque matin, Vetargileno le mitzvotecha, c'est-à-dire, et habitue-nous à tes mitzvot. Il y a là un piège, le risque d'un piège, lorsque les mitzvot sont considérés comme des habitudes à prendre et que finalement on les pratique machinalement. Mitzvot anashim melumada, ça se dit en hébreu. Mais il y a ici l'objet d'une demande qui est importante à comprendre. Que cela nous devienne familier. Alors, bien entendu, l'éducation, l'approfondissement, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la vocation d'ascèse, mais l'éducation aux mitzvot fait que cela peut devenir familier, c'est-à-dire intégré à l'identité de l'homme. Mais c'est second. Premièrement, la mitzvah n'est pas naturelle à la vie de l'homme de nature. Les mots ayant leur sens simple. Pourquoi j'insiste ? Parce que très souvent, cette évidence du lien entre la Torah et Israël, à travers des millénaires, fait dire à beaucoup d'enseignants d'ailleurs de bonne foi et de bonne volonté, que la Torah est naturelle à Israël. Même à Israël, elle n'est pas naturelle. Je pense que le texte du Maharal est clair, il le dit en clair. Mais elle peut le devenir à un second niveau. Un peu, si vous voulez, en utilisant l'expression... comme on dit en français, l'habitude est une seconde nature. Et alors, le targilenu, le mitzvotecha, fait que la Torah nous devienne naturelle. Mais c'est en tout cas l'aveu que, premièrement, par essence, elle ne l'est pas. Par exemple, vous avez des attitudes de bonne foi, mais enfin très maladroites, qui consistent à dire à un juif qui ne vit pas la Torah, mais c'est pas normal, parce que la Torah, c'est la vie normale d'un juif. Donc toi, juif qui ne vit pas la Torah, c'est pas normal. C'est pas exactement comme ça. Comme dirait le rabbin Bernheim, c'est vrai, mais c'est pas juste. C'est-à-dire que un homme normal ne vit pas d'après la Torah. Un homme normal, du point de vue de la définition, l'être de nature. Sinon, il y aurait là une attitude raciste épouvantable. Ça veut dire que l'immense majorité des hommes sont anormaux. Les juifs non pratiquants y compris. Je répète souvent cela sous différentes formes. Il y a des maladresses pédagogiques qui enveloppent un racisme considérable. Et il faut bien savoir que l'interlocuteur qui écoute ces choses-là se rebelle, même s'il est suffisamment poli pour ne pas le dire. Ça veut dire que c'est délirant, apparemment. Alors je voudrais corriger un peu cela. Et c'est ce que le Maharal dit clairement. Si vous avez à parler de ce problème, référez-vous à ce chapitre. Et dans toute l'œuvre du Maharal, le Maharal y revient. Il dit, méfiez-vous, la Torah n'est pas naturelle à l'être de nature. Elle ne concerne pas la vie de l'être de nature. Je répète la même expression, mais je crois que c'est la plus claire. Et c'est ce qu'on appelle finalement à la limite, en termes théologiques, un païen. Le païen, c'est l'homme qui consent à vivre à la manière d'un être de nature. Il rentre dans le paysage. L'étymologie du mot païen, c'est l'homme du pays, okay, du paysage, disons. L'homme de nature. Et voici que, pour des raisons que la Torah explique, Israël, à travers son histoire, a eu un derereretz particulier, un chemin sur terre particulier, depuis le premier homme, à travers l'émergence de chaque génération, jusqu'à ce que la nation d'Israël... émerge dans son identité propre et soit apte à recevoir la Torah, mais elle la reçoit comme une Torah mina shamayim, comme une réalité de l'ordre des valeurs du ciel et pas de la terre. L'espérance, c'est que elle nous soit suffisamment familière, mais c'est second, comme une habitude qui est acquise, elle peut devenir une seconde nature, mais premièrement, il y avait une extériorité entre l'identité de l'homme qui est un homme, même quand il est Israël, et la Torah qui vient du ciel. J'approfondis un peu cette comparaison et ça nous rapprochera un peu du sujet de la table ronde. Il y a aussi l'expression que l'on cite souvent à juste titre, Lo bashamayim hi, elle n'est pas au ciel, la Torah. Mais ça risque de faire oublier qu'elle vient du ciel. Elle n'est pas au ciel, mais elle vient du ciel. Lo bashamayim hi, et si on prend cela au sérieux, alors on se rend compte qu'il faut une correction dans l'attitude de ces heures de pédagogie dont je vous parle. Je pense que l'idée est simple, c'est pas la peine de prendre trop de temps pour cela. Encore, pour le répéter une dernière fois, dire à un juif, enfant, adolescent, adulte, peu importe, tu n'es pas normal, parce que tu ne pratiques pas les mitzvot, c'est dire une contre-vérité. Ça veut dire, si tu acquiesces à l'être de nature, c'est ça être normal. Fonctionner comme tu fonctionnes, c'est-à-dire à la manière des goïms, finalement. Et les goïms, c'est-à-dire les nations de la nature. Vous avez dû remarquer cela, que les expressions bibliques désignant les nations en dehors d'Israël les définissent toujours dans la relation avec l'être de nature. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Umot ha'olam, les nations du monde. Alors qu'Israël est défini al ha'adama, il est sur terre, au-dessus de la terre. Si la terre c'est la nature, dans cette expression, Israël est surnaturel. Et c'est ainsi que l'histoire de Jacob, qui est l'hébreu fils d'Isaac, fils d'Abraham, recevant pour la première fois le nom d'Israël, est décrite par la Torah. Vaikralo el Elokei Yaakov. Et il y a, je vais m'aider du français pour essayer de vous expliquer ça en franc-bleu, il y a une perspective d'identité surnaturelle dans l'identité d'Israël. Je veux dire, la première partie du mot en français, la dernière en hébreu. Israël. Et ne croyez pas que c'est une blague. Hein? D'ailleurs, les nations l'ont pressenti, puisqu'ils nous ont divinisé en effigie céleste. Vous savez de quoi je parle, l'union. Okay? On pressentit cela. Okay? J'ai vu une minute. Et je citerai simplement un enseignement qui vient de la Kabbalah. J'ai souvent cité l'expression « En mukdam ou mukhar batora ». Il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Ça se relie à notre sujet. La Torah, en tant que vérité, est sur l'écran de l'éternité. On ne peut pas dire qu'il y a un ordre chronologique des propositions de vérité de la Torah. Ça risquerait d'impliquer, on y a fait allusion hier soir, un ordre d'importance. Okay? D'un certain point de vue, toutes les mitzvot sont sur le même plan de vérité absolue éternelle. Il n'y a pas avant et après dans les mitzvot. Mais dans le Sefer Torah, il y a Mukdam ou Mukhar. Dans le dévoilement de la Torah, son inchronisation dans l'histoire. Le terme d'inchronisation est un néologisme forgé par le professeur Neher. Lorsqu'une vérité d'éternité entre dans l'histoire, elle synchronise. S apostrophe, ok? Inchronisation. Et alors, là, il y a un ordre du dévoilement. C'est un ordre historique, logique, pédagogique. C'est quoi la première question du Midrash que va citer Rashi? C'est Lohea Tsarir, Leatril et Tatora, et la Bachodesh Azelachem, Shei Mitzvah Rishona, Shine, Mistavouba Israël. Il était nécessaire de commencer la Torah, si on définit la Torah comme le livre des lois, que par la première des mitzvot révélée à Israël. C'est-à-dire, s'il y a déjà nécessité d'un commencement, c'est le mot nécessaire ici qui fait problème. Et bien sûr qu'il est nécessaire de commencer un livre quelque part, okay? Mais pas la Torah. La Torah, il n'y a pas de commencement ni fin. C'est Na'ot Sofam Litrilatam. Dès qu'on finit Vezot Abraham, on recommence Bereshit. Okay? S'il y a déjà une nécessité de donner un début au texte de la Torah, le seul début logique, cohérent, c'est le début historique de la révélation, du dévoilement. Mais il n'y a pas un début dans l'ordre de vérité. Est-ce que c'est bien clair, okay? Et par conséquent, lorsque la Gemara dit « En mukdam ou mukhar batora », elle parle de la Torah dans l'ordre de vérité simple dont parle le Maharal. Elle ne parle pas du texte de la Torah dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il y a un ordre qui est ce qu'il est et qui en lui-même est une vérité. Il y a, c'est un autre sujet, une analogie dans les catégories hébraïques talmudiques entre la notion d'ordre, ordonnance, et la notion de vérité. La vérité d'une proposition de connaissance dépend de l'ordre des termes. Si on change l'ordre des termes, le contenu de vérité change. La vérité dépend du seder, c'est très maharalien. le lien entre Emet et Seder. Et donc, dans le Sefer Torah, il y a un ordre. Jusque-là, c'est une connaissance classique qui se relie à l'enseignement du Gaon de Vilna. Je crois que je vous l'ai cité une fois. Je vais vous raconter comment j'avais relié cela. C'était il y a une vingtaine d'années. Il y avait la fête de Sukkot. Il y a la fête de Hoshanot dans Hoshana Rabba. Dans les kilos des Sephardim, il y a une grande fête du Sefer Torah. Et dans les communautés traditionnelles, j'ajoute traditionnelles, les femmes descendaient et avaient le droit d'ouvrir le Echal et de prier devant le Aaron, devant le Sefer Torah, et embrasser le Sefer Torah. Alors le lendemain, il y avait eu un reportage dans Mariv, je crois, dans Haaretz, je ne me souviens plus, et qui citait une phrase du Zohar. « Akol talui bamazal, afilu Sefer Torah shebe Echal. » Tout dépend de, je vais d'abord traduire en grec, du mazal, de la chance, même le Sefer Torah qu'il y a dans le Echal. Il expliquait chez les Sfaradim, les Sfaradim ont beaucoup de chance, les femmes viennent les embrasser. Mais qu'est-ce que ça veut dire le... Je ne sais pas, il y a peut-être des communautés ashkénazes, ça se fait aussi. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase dans le Zohar ? « Akol talui bamazal » tout est soumis au déterminisme, au conditionnement du fonctionnement du monde, c'est le mazal, ok ?« Afilu Sefer Torah sheba Echal » même le Sefer Torah qu'il y a dans le Aaron HaKodesh, qu'il y a dans le Echal. Je ne vous dirai pas le pshat de ce sod. Qu'est-ce que c'est ça, le Sefer Torah qu'il y a dans le Echal ? Dans quel olam ça se passe, où ça se situe et que ça signifie ? Mais je le prends sur terre. Nous avons une synagogue, il y a un Echal, il y a un Sefer Torah dedans. Ça veut dire même le Sefer Torah physique sur lequel on a écrit la Torah, le parchemin, le bois, la robe, etc. Ça aussi, c'est soumis au déterminisme du temps. Mais pas la Torah. Vous voyez la différence entre Torah et Sefer Torah. C'est clair ? Bon. Alors, Gaon avait expliqué cette phrase usoire de la manière suivante. « Akol talui bamazal, afilu Sefer Torah shebeechal » Le Gaon a ajouté dans son commentaire un mot, « Sefer ». Pour nous dire, c'est le Sefer qui est talui bamazal, pas la Torah. C'est très parallèle à ce que j'essaie d'expliquer là. En mukdam ou mukhar batora. Batora. Basefer yesh. Il y a des raisons pour lesquelles la révélation de la Torah se révèle dans cet ordre, dans ce livre-là. Et j'ai très souvent entendu énormément d'enseignants ne pas tenir compte de ce principe. Et quand on dit oui, mais cet événement en principe s'est passé avant, pourquoi c'est écrit après ? Ils disent, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. C'est faux. Il y a un ordre, mais il faut le comprendre. Ce que veut enseigner la Torah l'amène à raconter un événement antérieur après un événement postérieur. Et il faut savoir pourquoi. Et pas se borner à dire « Efker ». Quand le copiste a copié, il a mélangé les numéros des pages. Vous voyez de quoi il s'agit. Alors si vous cherchez dans le Sefer Torah, la première fois que le mot de « Aïn » est employé est la dernière fois. Alors je vous relis la phrase. Le Aïn Mugdam et le Aïn Mouchar. En Mugdam ou Mouchar Batora. Si vous cherchez cela, vous avez compris en hébreu ? Si vous cherchez où c'est écrit le premier mot, Alef Yud Nun, Aïn, Ein, et le dernier, vous avez deux versets. Le premier, c'est à propos de la création de l'homme, Vea Adam Aïn, la rabot d'État Adama, et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et le dernier, c'est dans le Sefer Devarim, En Kael Yeshurun. Yeshurun s'appelle El, à la fin. Ça y est, c'est clair ? Bon, je referme la parenthèse. Et donc, je crois que c'est suffisamment clair pour ce point de l'enseignement du Maharal que je voudrais encore accuser, affûter un peu, comme on dit, la Haded. C'est-à-dire, la Torah, premièrement, n'est pas naturelle à l'être humain. Il faut l'acquérir. Mais le souhait, la prière, la demande, c'est que nous ayons une familiarité telle qu'elle devienne une nature. Et ça, c'est le cas d'Israël. Voilà, c'est bien clair ? Donc, ça implique énormément de mise au point sur l'attitude de l'élaboration du din, d'ailleurs. Et les juristes talmudistes étudient beaucoup ce problème. Comment formuler encore une fois, les formes de règles d'application des mitzvot de la Torah, de telle sorte que les mitzvot soient préservées. et ne soient pas mises en danger dans la manière dont elles sont transmises de génération en génération. Je pense que c'est clair. Or, malheureusement, comme vous le savez, il y a en tout cas énormément de, disons, de tendances où on ne tient pas compte de cela. Et alors, subitement, on se trouve devant une situation catastrophique. Les valeurs auxquelles on était attaché ne passent pas de père en fils. Et on se demande pourquoi. Vous voyez comment c'est relié. Bon, il faut savoir aussi que les fils, ce n'est pas toujours des anges, mais ils ont aussi leur yetzara rare, mais il faut leur, comment dire, leur faciliter la tâche. Et c'est suffisamment clair, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, attendez,
il y a différence entre garder et observer.
Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que ce terme chamor, ça veut beaucoup plus dire garder que observer dans le sens de pratiquer. Pratiquer, c'est une autre catégorie des exhortations de la Torah. Ushmartem va asiter motam. Vous les préserverez, alors vous les accomplirez. C'est un petit chidouche, mais c'est le pshat. Ken? La asot. Par exemple, vous avez en français, dans le patois des yeshivot, on dit faire le Shabbat. Que ça veut dire faire le Shabbat? Il fait Shabbat, d'autres disent il garde Shabbat. Vous avez remarqué ça? Bon, c'est des problèmes de difficile traduction de l'hébreu au français, mais ces problèmes ne se posent que dans les yeshivot. Parce qu'on a l'habitude de parler le jargon juif. Alors, on s'entend en hébreu, même si le terme français qu'on emploie n'est pas forcément approprié. Mais c'est plein de sens tout ça. C'est plein de sens. En hébreu, faire Shabbat, ça veut dire faire Shabbat. Celui qui pratique le Shabbat fait qu'il y a Shabbat dans le monde. Cela, on pourrait l'approfondir, mais je pense que ça vous est familier. Et garder le Shabbat ou toute autre mitzvah, c'est le pratiquer de telle sorte qu'il se conserve dans la tradition. Vous comprenez? On pourrait prendre des exemples plus concret, c'est-à-dire les consignes de discipline qui accompagnent la transmission d'une valeur sont très importantes pour cette transmission même. C'est-à-dire, s'il y a une maladresse de précaution, eh bien finalement, ça passe pas à la génération. Je crois que l'assimilation s'explique elle-même, elle est en elle-même la propre cause de la catastrophe qu'elle représente. Je vous dirais ça peut-être de façon un peu générale, en termes plus généraux. Me rappelant d'une des réunions, il y a très longtemps, à laquelle j'avais participé au consistoire, lorsque les responsables du consistoire, et quelques années après la guerre, se demandaient pourquoi les jeunes n'allaient pas dans les synagogues. Ils avaient convoqué les responsables du mouvement de jeunesse pour nous poser la question et l'étudier avec nous. Bon, quand c'était mon tour d'intervenir, parce qu'ils me disaient, mais on a des budgets énormes, on dépense un argent fou pour décorer les synagogues, les faire peindre que ça soit sympathique, les orgues, les enfants de chœur, il n'y en a pas. Mais... Et alors j'ai dit, écoutez, quand un enfant ne retourne pas à la maison, c'est que c'est plus sa maison, tout simplement. C'est qu'il ne se sent pas chez lui. Je pense que c'est clair. Okay? Ça veut dire, la manière dont le spectacle appelé la prière était présenté aux enfants d'Israël, les a tellement repoussés qu'ils ne sont plus venus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les caprices et les mauvaises volontés à tout âge. Mais à partir du moment où un juif a l'impression d'entrer dans une église quand il va dans une synagogue, eh bien, il ne retourne pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça justifie rien pour personne. Vous comprenez ce que je dis? Mais je crois qu'il y a là une analyse à laquelle il faut réfléchir. Parce qu'il s'était aperçu que quand les mouvements de jeunesse faisaient un office, c'était plein de gosses. Alors, on ne pouvait pas leur dire en clair, mais nos gosses ne rentrent pas dans les églises. Et ils n'auraient pas compris. Mais... Bon, c'est clair ce que j'ai dit?
Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais formaliser le lien entre ce que tu viens de dire et le fait que chaque créature a en elle sa Torah?
Ça, chaque créature en elle sa Torah, ça n'existe pas. Chaque créature a dans la Torah une lettre qui lui correspond. C'est différent. Il faut toujours citer les choses avec exactitude. Sinon, ça vient de la philosophie de la proximité. Bien sûr, nous avons j'appelle la capacité d'une lecture géniale spécifique de la Torah qu'aucun autre ne peut lire comme ça. C'est à ça que tu fais allusion. Okay. Il faut d'abord lire, même la seule partie de ta question, mais il faut d'abord être apte à pouvoir lire la Torah. Et ce n'est pas naturellement qu'on lit la Torah. Il y a toute cette hachana du Derech Eretz chez Kadma la Torah. Il y a 2000 ans de Derech Eretz avant qu'une société humaine ait été capable de recevoir la Torah. Ça, nous en avons parlé hier matin, vous vous rappelez de ça? Bon. J'avais dit une fois un chidouche. Et finalement, mon rabbin m'a confirmé que ce n'est pas un chidouche, que c'est le pshat. Okay. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz Kadma la Torah? Derech Eretz, c'est l'expression qui littéralement signifie le chemin de la terre, la voie sur terre, la vie terrestre, okay? Darka de'ara en araméen, et dont on se sert pour dire l'acquisition des valeurs morales, l'apprentissage de la moralité, et à la limite ça veut dire la politesse, la civilisation, tout ça c'est Derech Eretz. Okay? Alors, comme j'ai l'habitude de lire littéralement, avant de traduire, je veux dire, lorsqu'on traduit le sens uniquement et pas la lettre, on ne traduit rien. Alors, littéralement, ça veut dire le chemin de la terre a précédé la Torah. Quelle terre? Pour Israël, il y a une seule terre, c'est Eretz Israël. Alors, vous savez très bien, quand on dit tu vas en Israël, en hébreu, on dit tu vas au pays, on dit tu vas à Eretz, Nahon. Alors, Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est-à-dire le chemin d'Eretz Israël a précédé la Torah. Ben, j'ai trouvé ça dans l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce que, la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est prends le chemin de la terre, le mot change, le sens a changé. Et après, je te parlerai, j'ai des choses à te dire. Mais c'est clair. voilà ce que je veux dire par là. C'est que chaque nation a son Derech Eretz. Chaque nation a sa manière d'être sur terre. Il y a un Derech Eretz de la France, il y a un Derech Eretz de l'Allemagne, il y a un Derech Eretz des Philistins. Belo. Et il y a un Derech Eretz de la nation des Hébreux. Alors ce Derech Eretz qui a été l'apprentissage de la morale d'après les patriarches était indispensable à recevoir la Torah. Est-ce que c'est bien clair? Et même ce Derech Eretz n'est pas naturel à l'homme, il n'est naturel qu'à l'hébreu. Encore une fois, lorsqu'un non-juif, disons un non-hébreu, devient juif, il faut qu'ils se convertissent d'abord à ça, au Derech Eretz hébraïque, qu'on appelle en yiddish la yiddishkeit, la manière de vivre juive. Très souvent, nous avons des candidats à la conversion à qui on déconseille de se convertir, parce que la Torah, ils peuvent la recevoir, mais juifs, ils ne peuvent pas être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quand ils arrivent à comprendre cela, des fois, on s'aide de psychologues pour leur expliquer. Parce que des conversions d'identité impossibles, ça déclenche des troubles d'identité dont vous n'avez aucune idée. Okay. Alors, une fois qu'ils ont compris cela, ils sont rassurés, ils seront sauvés. Ils pratiqueront les mitzvot de Bnei Noar. Ils seront des amis d'Israël, des amis des Juifs. Peut-être que un de leurs descendants pourra se convertir. Mais eux savent qu'ils ne peuvent pas fonctionner en juif. Et si on ne leur explique pas ça, ils risquent de devenir anti-juifs. En se disant quoi? Et il y a des élus qui ont des droits de passage, vous voyez ce que je veux dire? Et pas d'autres. Et il faut leur expliquer tout ça. Et j'en ai eu, dans mon expérience, j'en ai eu énormément, à qui on a évité de se trouver un jour dans un hôpital. Parce que ça rend fou quand on change d'identité et qu'on n'en est pas capable. Enfin, qu'on n'est pas concerné. Et, est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bien,
si tu permets, je voudrais préciser. Ce que je parlais, c'était dans le sens qu'il y a, excuse-moi pour l'approximation du vocabulaire, mais disons la Torah du chien, la Torah de la pierre, etc. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
C'est un problème.
Ça. Donc, je veux dire, la Torah est dans la créature.
Alors, rassure-toi, il n'y a pas de Torah pour les chiens. Il y a ce que la Torah nous dira, les chiens, ce que la Torah nous dira, les arbres. Alors, c'est que tu emploies un sens hindou du mot Torah. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Programmation des destinées. Okay. Alors explique-toi plus, parce que je n'arrive pas à entendre la question.
La véritable Torah se situe. Je ne sais pas. Bon, je peux expliquer peut-être par le fait que quand il y a naissance, il y a un coup de baguette, je ne sais plus exactement, qui fait qu'on oublie la Torah pour avoir à la réapprendre. Mais ça veut dire qu'il y a une période où la Torah est dans la créature.
Écoutez, chaque fois, maintenant vous avez des tas de livres qui citent n'importe quoi. Et chaque fois que vous apprenez une connaissance ponctuelle, importante pour elle-même, laissez-la de côté dans votre mémoire jusqu'à ce que vous ayez appris le contexte où elle prend son sens. Ce que tu as cité existe, mais ça n'a rien à voir avec la question que tu poses. Tu comprends? Je pense que c'est clair. Alors c'est pourquoi je ne veux pas prendre trop de temps là. Ça, je crois que c'est un conseil pédagogique que je vous donne. Vous avez une accumulation de lectures, une accumulation d'informations, et n'essayez pas, avant d'en être apte, de faire des liens de toute chose avec toute chose, parce que c'est une science pour elle-même. On ne peut pas relier n'importe comment, n'importe quoi. Est-ce que c'est clair, je vous dis là? Alors, faites cet effort. C'est un peu l'effort de patience, de l'humilité que demande d'ailleurs le Maharal. Voilà. Et maintenant, j'ai mieux compris ce que tu voulais dire. Alors, c'est tout à fait autre chose, mais c'est... Et je vais simplement le relier à l'exposé. À partir du moment où la Torah est devenue habitude seconde nature, et même comme ça, elle peut s'oublier. Et il faut la retrouver. Ça ne veut pas du tout dire que la Torah est connaturelle à l'aide de nature. C'est clair? En fait, je crois que l'important, c'est d'employer un raisonnement de logique stricte, et surtout de ne pas tenter de faire des liens entre des connaissances de niveaux différents, et d'ailleurs parfois de tendances d'études différentes, avant d'en être apte. Et pour ça, je vais vous dire, et puis on refermera cette parenthèse, pour comprendre un verset, il faut les connaître tous. Ce n'est que quand on les connaît tous que chacun s'éclaire. Est-ce que c'est clair? Alors, tant qu'on ne les connaît pas tous, dire « Ah, mais ce verset me rappelle qu'il y a un lien avec tel autre », ça risque d'être la pagaille absolue mentale. Vous avez compris? Alors, on referme la parenthèse.
Est-ce que le déferet du juif n'est pas de devenir cachère, c'est-à-dire adapté à recevoir la Torah?
Tout à fait. Il y a une homogénéité entre la Torah et Israël arrivé au terme de son apprentissage de déferet. C'est pour ça que ça se passe au niveau de Jacob. Abraham n'a pas encore reçu la Torah, une demi-mitzvot. Isaac non plus. Jacob, arrivé au terme du choufra des choufrés de Adam Arishon, lui est enfin, il est tout entier Torah, alors il reçoit la Torah. Sa génération n'a pas mérité, c'est Moïse, son descendant, mais c'est pour les enfants de Jacob. C'est clair, je pense que... Alors, même comme ça, le Maharal explique, cette liqueur de la Torah, et ça dépend du vase, peut s'altérer. Même comme ça. Et je vous avais signalé une fois, je crois que ça se relie beaucoup avec notre sujet, c'est que Israël qui a reçu la Torah a été le fabricant de toutes les hérésies qu'il y a dans le monde. C'est les Juifs qui ont inventé toutes les hérésies. Vous savez cela. Tous les ismes. Les schismes et les ismes. Même le judaïsme. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Dans le contexte de la on s'est dit qu'on entend aussi souvent ce raisonnement, et aussi chez les Juifs quelquefois, si la circoncision était vraiment utile à l'homme, l'homme
naîtrait circoncis. J'ai jamais entendu ça.
Que la réponse.
Vous n'avez
jamais entendu ça?
Non.
J'ai
jamais entendu ça.
D'ailleurs,
ça serait pas privé de sens, ce que vous dites là.
Non, c'est
pas
privé de sens.
Non, c'est pas privé de sens. Non, ce que ma renseignement est un peu
l'inverse.
Ça veut dire que le monde nous est transmis suffisamment organisé pour être vivable au commencement d'une histoire, mais achevé par l'homme pour que l'homme puisse y acquérir son mérite. Et à propos de cette question, la réponse de la Gemara est que c'est comme si vous voudriez un monde où le pain doré, croustillant, baguette est sur les branches des arbres. Non, vous aurez d'abord le blé et puis pour arriver jusqu'à la boulangerie. Ça, c'est le monde à venir, la porte du monde à venir. Le monde où il y a les pins sur les arbres. Vous connaissez ça, le blue scout, okay? L'arbre à pain, c'est ce que je sais. C'est un peu différent. C'est-à-dire que l'homme incirconcis, c'est l'homme de nature, parfait au niveau de la nature, dans le sens aristotélicien. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Et la circoncision, c'est un choc qui nous dégage de la nature. Un sujet pour lui. Alors oui, c'est juste l'inverse. c'est pour ne pas être homme de nature qu'on est circoncis. Vous allez me dire, c'est mystérieux, les femmes, il n'y a pas d'incision pour les femmes dans le judaïsme. Bon, c'est un problème pour lui-même, la Torah considère que les femmes sont circoncises de nature. C'est le cas particulier de la femme, okay? C'est un autre sujet, ne me tentez pas là-dessus, ce serait de la tentation. Mais vous connaissez qu'il y a beaucoup de traditions, de peuples, où il y a une...